Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Philippe Robuchon. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Journée particulièrement faste pour les Français au JO de Tokyo. 6 nouvelles médailles, une en or en judo, 2 en planche à voile, une en triathlon, une en rugby féminin à 7, une au sabre. On avait rarement vu pareille moisson. La médaille la plus symbolique sans doute, c'est l'or remporté par l'équipe de France mixte de judo face aux Japonais, chez eux, dans leur temple du Budokan. La France compte ce soir 19 médailles et pointe à la 8e place. En Bretagne, le petit garçon de 8 ans enlevé par son père est sain et sauf. Tous deux ont été retrouvés en bonne santé près de Plouaret, dans les Côtes d'Armor. Christian Panvert, sur place, nous donnera de leurs nouvelles. Nouveau succès pour l'alerte enlèvement. Les opposants au pass sanitaire, encore nombreux dans la rue aujourd'hui. On n'a pas encore de bilan officiel. Mais comme la semaine dernière, des incidents. Nous rejoindrons Valentin Boisset dans le cortège parisien. Et puis bien sûr, des nouvelles des vacanciers arrivés depuis quelques heures sur leur lieu de villégiature. Comme prévu, ce 31 juillet a été chargé sur les routes, mais les choses semblent rentrer dans l'ordre. On fera le point dans un instant. Puis vous entendrez ou réentendrez l'émotion de Jocelyne Béroir, la chanteuse du groupe Kassav, après la mort du guitariste cofondateur du groupe, Jacob Desvarieux. Il a été emporté par le Covid à 65 ans. Dans un quart d'heure, l'invité de ce journal sera Didier Arino, le directeur général du cabinet Pro Tourisme. Avec lui, on fera le bilan du mois de juillet. Vu les conditions sanitaires et vu la météo, dans l'ensemble, il n'est pas si mauvais. Vos chroniques d'ici 18h30, un livre dans ma valise, ce sera avec Laurent Marsic, et Mon métier, ma passion, Armel Lévy, vous fera rencontrer un expert comptable passionné. Le temps, Valérie Quintin, demain du soleil, mais seulement près de la Méditerranée.
Alors oui, un soleil au zénith, mais au prix de fortes rafales de Mistral et de Tramontane entre le Roussillon, la Provence et la Corse. Rafales qui atteindront 70 km/h en pointe. Ailleurs, toujours des averses, voire des orages sur le flanc est ou encore vers les Hauts-de-France. Et partout, des températures en léger recul avec 10 à 22 degrés au réveil de la Picardie à la Haute-Corse. Comptez 17 à 32 degrés en journée, 19 à Cherbourg, 20 degrés à Lille, 21 à Bordeaux, 23 à Paris, 24 à Lyon, 32 pour Nice.
Merci Valérie. La journée d'hier avait été décevante, celle d'aujourd'hui, tout le contraire, enthousiasmante. 6 médailles tombées dans l'escarcelle des Français au JO de Tokyo. Ça avait commencé ce matin, très fort, avec la planche à voile, chez les femmes comme chez les hommes, avec le triathlon, puis le rugby à 7 chez les filles, l'argent au sabre pour les Françaises, et puis surtout, on va y revenir dans un instant, cette fantastique médaille d'or remportée par l'équipe de France mixte de judo face aux Japonais. Bonsoir Christian Olivier.
Bonsoir.
On va revenir sur le détail dans un instant, mais d'abord, tiens, une question. 6 médailles en une seule journée, c'est historique?
Alors, historique ou pas, ces histoires de records de médailles, c'est l'éternel débat selon que vous établissez un bilan qualitatif ou quantitatif. Mais en l'espèce, ce n'est ni un record quantitatif et certainement pas un record qualitatif. Sydney 2000, 18 septembre, bilan identique au métal près. Mieux, il y a 4 ans seulement, Jeux de Rio, vendredi 12 août 2016. Comme aujourd'hui, 6 médailles au total, mais surtout aux 3 médailles d'argent de l'époque, s'étaient ajoutées 3 médailles d'or, 3 titres olympiques pour l'aviron et déjà pour le judo, avec notamment Teddy Riner, contre une seule en or, vous le savez aujourd'hui. Alors, pas de record qualitatif, et encore moins de record quantitatif. Écoutez-moi bien, les Jeux d'Atlanta, 27 juillet 1996, 3 médailles d'or étaient également tombées dans l'escarcelle de l'équipe de France olympique, mais aussi une d'argent et 5 de bronze, grâce notamment à l'aviron. Total, 9 médailles. Ce jour-là, ce bilan exceptionnel avait malheureusement été éclipsé par un attentat dans le parc olympique, à 2 pas du siège de CNN. Mais bon, avec l'or du judo mixte par équipe, avec l'argent de Charline Picon, Thomas Goyard en planche à voile, avec le rugby à 7 féminin, avec le sabre par équipe féminin et la médaille de bronze de l'équipe de France mixte de triathlon, ce samedi 31 juillet 2021 restera aussi comme l'une des plus belles journées du sport olympique français.
Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Alors évidemment, toutes les médailles françaises méritent d'être célébrées, quelle que soit la couleur du métal, mais symboliquement, celle qui pèse sans doute le plus lourd, c'est celle en or de l'équipe de France mixte de judo. Rendez-vous compte, Teddy Riner, Clarisse Agbegnénou, Axel Clergé et Sarah Léonie Sizik l'ont emporté face aux Japonais, devant leur public, dans cette salle mythique du Budokan à Tokyo. Alors on a vu les Français sauter de joie, c'est un exploit historique qu'ils ont réalisé. Écoutez, le président de la Fédération française, Stéphane Nomis, il n'en revient toujours pas.
Un truc de fou, oh là 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 là, quelle magie le judo, oh là là, qu'est-ce qu'ils nous ont offert aujourd'hui, c'est un truc, des frissons, de la peur, parce qu'on a eu de la peur au ventre au premier tour contre Israël. Faut pas l'oublier, hein. Ça joue à pas grand chose. Un truc de dingue pour au final écraser les Japonais. 4-1, quelle victoire facile, ils les ont tués. Je sais pas d'où ils me sortent ça. Ils ont fait un braquage au Japon. Dans le temple du judo. Dans le temple du judo, chez eux, à la maison, avec tout pour eux. Ils perdent en finale et ils se font découper en plus. Hein.
C'est ça qu'il faut dire aux auditeurs. C'est que ici, on n'est pas n'importe où.
Ah non, ici, on n'est pas n'importe où. Ici, on est dans le temple du judo mondial. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on a du mal à gagner ici. Il y a peu de victoires au Japon. Et là, on fait le travail qu'il faut avec un Teddy Riner, capitaine d'équipe qui emmène son équipe, et Clarisse, deux magiciens qui nous portent au firmament pour gagner l'or. Un truc incroyable.
Voilà, braquage au Japon, comme le dit Stéphane Nomis, le président de la Fédération de Judo, avec Isabelle Langer, l'envoyée spéciale de RTL à Tokyo. L'autre coup de chapeau qu'on voulait donner ce soir, c'est à Manon Brunet dans l'épreuve du sabre. La benjamine de l'équipe de France a glané l'argent aux côtés de Sarah Balzer, Cécilia Berder et Charlotte Lambard. Elles ont été battues de peu en finale par les Russes. Mais pour Manon, qui n'a que 25 ans, c'est sa deuxième médaille à Tokyo, après le bronze en individuel. Deuxième médaille au goût exquis.
Elle est délicieuse. Ça faisait des années qu'on la voulait. 8 ans qu'on travaille ensemble avec les filles, avec les coachs. On a continué à se battre et c'est pour ça que cette médaille a une magnifique saveur. On sait qu'on va retourner travailler pour avoir cette médaille d'or dans 3 ans, c'est sûr. C'est frustrant, mais on sait qu'on n'est pas très loin et c'est ça qui est beau. Je suis presque pressée. Je vais prendre un peu de vacances quand même. Mais ouais, je suis presque pressée d'être à Paris. Je sais que j'ai un an de moins pour les préparer. Je veux qu'on fasse briller la France. C'est un beau pays qui combat avec ce qu'il a. Donc ouais, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête depuis déjà un petit moment. Donc ouais, je suis presque prête pour retourner travailler pour Paris.
Le rendez-vous est pris. Manon Brunet interrogée pour RTL par Baptiste Durieux. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette journée olympique exceptionnelle pour les Français. 6 nouvelles médailles, donc 19 en tout. Ce soir, la France est 8e au classement. On y reviendra évidemment à 18h30, dont on refait les Jeux avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Il est 18h07, une nouvelle fois, le plan alerte enlèvement aura prouvé toute son efficacité. Le petit Davy, 8 ans, a été retrouvé sain et sauf cet après-midi. Son père, qui l'avait enlevé hier matin dans un centre social de Lannion, était à ses côtés, tous deux vont bien. Selon le procureur de Saint-Brieuc, ils ont été repérés à une dizaine de kilomètres de Lannion, là où ils avaient disparu. Christian Panvert, vous êtes sur place dans les Côtes-d'Armor pour RTL.
Oui, l'enfant a été retrouvé sain et sauf dans un champ à Vieux Marché, une commune d'un millier d'habitants au sud de Lannion. Ce sont les gendarmes qui ont interpellé l'homme de 38 ans. Il n'a opposé aucune résistance. Il est actuellement placé en garde à vue. L'enfant sera lui remis à sa famille d'accueil. Le parquet confirme que Davy, 8 ans, faisait l'objet d'un placement judiciaire. Le père a profité d'une visite, pourtant encadrée, pour s'enfuir avec son fils. Il avait certainement prévu son geste. Le petit garçon, dont la maman serait décédée, fête son anniversaire aujourd'hui. Le père est connu de la police, notamment pour des infractions en lien avec la garde de l'enfant. Ce dénouement illustre l'efficacité du dispositif alerte enlèvement et l'excellente collaboration entre la police de Lannion et la gendarmerie. Depuis hier, plus de 50 fonctionnaires des Côtes d'Armor, un hélicoptère et un chien ont été mobilisés.
Christian Panvert dans les Côtes d'Armor pour RTL. 18h08, dans un instant la suite du journal, les manifestations des opposants au pass sanitaire.
RTL Soir.
RTL Soir.
Philippe Robuchon.
On n'a pas encore de chiffres officiels, mais les opposants à l'extension du pass sanitaire étaient encore très nombreux aujourd'hui dans les rues. Au moins 5000 à Perpignan, à Mulhouse, à Marseille, un peu moins à Nantes, Strasbourg, Rennes, Colmar ou La Rochelle. Des milliers également à Bayonne, Toulon, Clermont-Ferrand, Nice ou Toulouse. À Paris, ils étaient au moins plusieurs dizaines de milliers dans 4 cortèges différents. Ce n'est pas fini d'ailleurs à l'heure qu'il est. Et comme la semaine dernière, Valentin Boisset, vous êtes en direct avec nous, des incidents ont éclaté avec les forces de l'ordre.
Oui, avec une petite accalmie à l'heure où je vous parle, mais il y a quelques minutes, le gaz lacrymogène fusait devant l'entrée de l'Opéra Bastille, car plusieurs dizaines de manifestants tentent de faire une manifestation sauvage. Un policier est d'ailleurs parti blessé au corps. Plusieurs milliers de personnes sont toujours présentes de l'autre côté de la place, dans le calme, avec ces profils encore aujourd'hui très hétéroclites. Et ce mot d'ordre de la liberté contre le pass sanitaire, Théo, par exemple, est ingénieur en biologie.
Je ne suis pas là contre la vaccination, je tiens à le préciser tout d'abord. Moi, je suis là contre le pass sanitaire essentiellement et contre tous les reculs de liberté qu'on a vus ces derniers mois. C'est un condensé de tout ça qui m'a amené à aller dans la rue. Je suis prêt à continuer autant qu'il faudra.
Mais il y a tout de même une nouvelle cause qui a fait son apparition aujourd'hui avec cette cible. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et ses annonces de cette semaine. Beaucoup de parents sont présents et ils veulent dénoncer, selon eux, la discrimination scolaire qui attend leurs enfants en septembre.
Je suis contre le pass sanitaire, je suis contre le vaccin. D'accord, on n'a pas suffisamment de recul et je ne veux pas. Je ne veux pas, et en plus de ça, ils vont imposer ça à nos enfants. Je ne veux pas.
Je suis maman. J'ai deux enfants, 3 ans et 7 ans, et personne ne touchera mes enfants. Jamais je n'accepterai qu'on discrimine mes enfants à l'école.
Alors pour le moment, le mouvement est plutôt statique ici à la Bastille. Chacun débat sur les actualités de la semaine et se donne surtout rendez-vous pour la semaine prochaine.
Merci Valentin Boissin, en direct donc de la place de la Bastille à la manifestation des opposants au pass sanitaire. Près de Rennes, à Vezin-le-Coquet, des centaines de personnes ont manifesté ce matin en mémoire de Willem Houssin, un artiste de 49 ans, battu à mort par des dealers samedi dernier. Son père, le maire de la commune, était en tête du cortège. 5 jeunes, dont 2 mineurs, ont été mis en examen et incarcérés. Il est 18h12. Comme prévu, ce dernier jour de juillet aura été chargé sur les routes. Le pic des 1000 km de bouchons cumulés a été enregistré à la mi-journée. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, la délivrance pour ceux qui ont souffert pendant des heures dans les bouchons. Benjamin Pelsi, vous êtes à Gruissan, dans l'Aude, au bord de la Méditerranée, au camping Les Aigades. Et vous avez assisté, même participé, à l'installation d'une caravane.
Dernière épreuve avant le repos, positionner la caravane et quand le chemin est trop petit pour s'aider de la voiture...
On fait avec les mains.
Stéphanie et Stéphane me réquisitionnent pour les aider.
Voilà.
Alors dites-moi quand je pousse.
Maintenant. Oh, oui, on tourne.
C'est toute une science de positionner une caravane.
Oui, oui, c'est un mystère. Il faut avoir un peu la porte ouverte vers la mer. Il faut s'orienter avec le soleil ou les vents.
Si ces Suisses sont encore adeptes de l'huile de coude, Jean-François, lui, dirige sa maison roulante avec une petite télécommande, mais il sent bien qu'il se prive d'un bon moment.
C'était super, là, même parce que les voisins venaient, et quand on avait fini de mettre la caravane, hein, mais vous devinez le reste, évidemment. Alors que maintenant, vous voyez, aucun voisin, il n'y a aucune bouteille non plus.
Ah, c'est grand, le grand lit.
Et la chambre des enfants.
Après 9 heures de route, Thierry, Céline et leurs deux enfants découvrent leur mobilhome.
Tout correspond, c'est parfait. En plus, le lit, il est joli, t'as vu ?
Voilà, c'est trop bien.
C'est là. Petit, cosy, ça a l'air pas mal.
C'est quoi la première activité là maintenant ?
Va falloir choisir entre piscine et plage, je sais pas. C'est les vacances.
Choix difficile, c'est un reportage de Benjamin Pelsi. Bonsoir Louis Augry.
Bonsoir.
Je le disais, on a cumulé plus de 1000 km de bouchons à l'heure du déjeuner. Ça va mieux hein, ce soir.
Oui, il y a du mieux. Globalement, du côté de l'A7 par exemple, dans la vallée du Rhône, Bison Futé a levé ses conseils d'itinéraire bis pour vous qui descendez de Lyon vers Marseille. En passant par Valence, c'est une zone qui a connu beaucoup de perturbations. Aujourd'hui, ça se fluidifie progressivement, même si vous mettez toujours une bonne heure. Hein. Pour traverser Valence, il faut encore faire preuve de patience. En revanche, restez prudents sur les retours maintenant. Vous circulez en accordéon sur plus de 16 km sur l'axe Marseille-Lyon, sur l'A7. Et du coup, du côté du sud-ouest aussi, vous êtes nombreux à rentrer. Pour vous qui roulez depuis Bordeaux sur l'autoroute A10 vers l'Île-de-France, c'est encore assez compliqué. Vous aurez certainement quelques coups de frein en arrivant sur Tours, puis Orléans. Et attention, le péage de Saint-Arnoult est très emprunté en ce moment. C'est la fin des vacances pour de nombreux automobilistes ce samedi soir.
Merci. Deux résultats de sport. D'abord en football, Ligue 2, Nîmes a battu Dijon 2-1 cet après-midi. C'est la deuxième journée. Les autres rencontres à partir de 19h. Puis en Formule 1, c'est une nouvelle fois le Britannique Lewis Hamilton qui partira en pole position demain du Grand Prix de Hongrie devant Max Verstappen. Il tentera Hamilton une 100e victoire en F1. Et puis pour finir, la nouvelle qui attriste tous les Antillais, tous les amoureux du zouk, la mort de Jacob Desvarieux, guitariste cofondateur du groupe Cassave. Il a été emporté par le Covid à l'âge de 65 ans. Les Antilles, l'Afrique, la musique perdent l'un de leurs plus grands ambassadeurs, a tweeté Youssou N'Dour, le chanteur sénégalais. Émotion également bien sûr de la chanteuse de Cassave, Jocelyne Berroir.
Je crois qu'on est tous un peu abasourdis parce que on espérait... comme quand on tient à quelqu'un, on espérait qu'il s'en sorte. C'est comme être amputé d'un membre. Il faisait partie des créateurs du groupe avec le bassiste Georges Décimus et le frère de Georges qui était à l'origine de tout, Pierre-Édouard. C'était quelqu'un qui était extrêmement efficace, qui prenait en main en fait un peu toutes les choses du groupe au niveau organisationnel, avec évidemment notre manager. Mais bon, Jacob, c'était le grand frère, c'était le sage, c'était... Voilà. Et maintenant, il faut commencer à penser à demain. On a du mal à imaginer continuer sans lui. Voilà.
Voilà, c'est difficile de marier la tristesse avec le zouk. C'était pourtant la tristesse de Jocelyne Béroir, la chanteuse du groupe Cassave, après la mort du guitariste Jacob Desvarieux. Il est 18h17. Dans un instant, on va dresser le bilan touristique du mois de juillet qui s'achève avec Didier Arino, le directeur général du cabinet Pro Tourisme.
RTL Soir.
RTL Soir.
Philippe Robuchon.
Il s'appelle Vincent Cuvelier. Son premier livre...
Invité de RTL Soir, Didier Arino, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général du cabinet Pro Tourisme. Alors, le mois de juillet se termine. C'est l'occasion d'un tout premier bilan pour le tourisme français cet été. Monsieur Arino, vu les conditions sanitaires, vu les contraintes en tout genre, vu la météo, hein, qui a pas...